Bonjour et bienvenue sur Radio Rollist, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en mai 2011 et c'est le numéro 5.
Bonjour Cobal.
Bonjour Cyril.
Ça
bonjour
fait du bien
à tous.
De se revoir.
Après tout ce temps.
Ah là là, tu m'as manqué.
Alors, de quoi est-ce que nous allons parler ? Donc, nous aurons tout d'abord quelques news, puis je te parlerai du Trône de Fer, puis ce sera à ton tour de nous parler de Code of...
Yunaris.
Code of Yunaris.
Code of Yunaris, Soul Killer.
Très bien. Et puis, pour terminer, je ferai à mon tour une sorte de petit dossier qui sera centré sur la gamme In Nomine Satanis Magna Veritas. Alors, tout d'abord, les news.
Alors, quelles sont les news en ce moment ?
Alors, tout d'abord, il y a des gens qui parlent de nous.
Ah.
Figure-toi que dans l'excellent podcast sur la bande dessinée, le One A Club, donc nous avons eu droit à un petit coucou de la part de One A Pied, ce qui est fort urbain de sa part.
Merci One A Pied.
Oui, merci à toi. À très bientôt pour ce crossover dont nous avons parlé. Ensuite, alors figure-toi que non, je ne passe pas toute ma vie à faire du jeu de rôle et parfois, il m'arrive de faire du jeu vidéo.
Oh.
Oui, c'est mal. Hein. Cette fois-ci, j'ai une bonne excuse parce qu'il s'agit de Portal 2. Alors, je ne sais pas si tu connais...
Je dois avouer à ma grande honte que je n'ai pas joué à Portal ni au 1 ni au 2.
Oh là là.
Mais j'ai passé un an de ma vie quasiment tous les soirs sur Counter-Strike et je continue à pratiquer.
Alors, que je te situe un petit peu le concept dans Portal et donc dans sa suite, on utilise un espèce de fusil qui lance des portails. Donc en fait, il crée des espèces de trous de verre entre deux zones. Donc tu peux mettre un portail au sol et un portail au plafond et toute personne qui saute dans un trou ressort de l'autre côté. Mais le truc intéressant, c'est que ce système conserve l'énergie cinétique. C'est-à-dire que si tu sautes dans quelque chose de très profond avec tout au fond un portail, donc tu vas prendre beaucoup de vitesse en tombant, ok ? Et si le deuxième portail est fixé à l'horizontale, dans ce cas, tu vas ressortir comme un boulet de canon de l'autre côté.
D'accord.
Parce que tu auras conservé la vitesse de ta chute.
D'accord. Et c'est un jeu où tu peux tomber dans des chausse-trappes, tu peux mourir, ton personnage meurt.
Ah oui, tu peux tomber dans des bacs d'acide, ce qui n'est pas très sympa.
D'accord.
Ou tomber de,
en fait c'est ça fait penser à un jeu de plateforme, il faut se déplacer dans l'espace.
Oui, c'est du plateforme
New Generation
et puzzle en quelque sorte, puisque tu dois toujours trouver ton chemin vers la sortie. Et pour cela, tu dois utiliser tes portails à bon escient pour appuyer sur des boutons, faire tomber des caisses, voilà. Et donc ce deuxième opus est particulièrement bon puisqu'il reprend la suite du premier. Bon, je ne fais pas de spoiler, mais on revoit des personnages, enfin un personnage connu dans le premier. Mais ce jeu est beaucoup
plus... En fait, c'est pas seulement justement un jeu de plateforme. Enfin, il y a une vraie histoire.
Ah oui, et en plus, ce qui est fascinant, c'est que finalement, dans ce jeu, tu ne fais que les puzzles. Et le seul élément de background, c'est par le son. Parce qu'en fait, tu as tout le temps des IA qui te parlent ou qui t'insultent, etc. Et en fait, c'est ça qui fait progresser la connaissance de l'univers. Ça et bien sûr le décor qui t'entoure, puisque au fur et à mesure tu changes. Donc c'est très bon, et puis il me semble qu'il n'était pas très très cher sur Steam. Donc voilà, si vous n'y avez pas joué, je pense que ça peut être bien. Ah, une dernière chose, donc je ne sais pas si tu connais Do, Pilgrims of the Flying Temple.
Alors, je ne connais pas, non, les Doppelgrims of the Flying Temple.
Donc, c'est un jeu qui était mis. Enfin, c'est un jeu à rançon, c'est-à-dire qu'il faut que les créateurs accumulent suffisamment d'argent pour pouvoir l'imprimer, le sortir et tout ça. Et donc, on fait des promesses de dons, en quelque sorte.
D'accord.
Et donc, pour celui-ci, ils ont accumulé une somme folle. Je crois qu'ils ont. Ils ont 650% de leur objectif initial.
Mais c'était quoi leur objectif? $100?
Non, je crois que c'était 3000, quelque chose comme ça.
Ah oui, d'accord. Donc, ils ont déjà fait.
Oui, un certain nombre de fois la culbute.
Ils prévoient les extensions, là, maintenant.
Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont, sorti plein de versions différentes en fonction du pledge, enfin de ce que tu pariais, de l'argent que tu mettais.
Ce serait un sujet, d'ailleurs, de discussion sur Radio Rollistes, approfondi peut-être par la suite, les nouveaux modèles. Là,
sur les nouveaux modes d'édition, oui, pourquoi pas. Ouais.
La rançon, Kickstarter.
Oui, tout à fait, oui. Oui, donc en fonction de la somme que tu mets dans le jeu, en fait, tu as droit à des versions différentes du jeu. Et non, la version ultra collector à $1000, qui donc c'est un jeu qui se joue avec des jetons. Et en fait, les jetons et le petit sac cousu à la main sont fournis.
Attends, laisse-moi, je sais. En peau humaine avec des os humains, c'est ça?
Non, c'est pas l'esprit, c'est pas trop l'esprit de ce genre de jeu, de ce type de jeu. Et donc voilà, avec des versions complètement folles, hein, avec couverture de cuir tannée à la main. Enfin, remarque, t'en étais pas très loin avec ta peau humaine. Et voilà, et le jeu a l'air plutôt intéressant. En fait, donc les Pilgrims of the Flying Temple, ce sont donc des pèlerins d'un temple quelconque, enfin dans l'univers du jeu.
Alors, des pèlerins genre Jet Li?
Non, en fait, ce sont des gens qui sont envoyés partout dans le monde pour résoudre les problèmes des gens. Donc,
d'accord, mais il n'y a pas de lien avec les arts martiaux, etc. J'ai vu temple, les pèlerins, d'eau.
Oui, il y a un petit côté kung-fu comme ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cœur du truc. Okay. Alors au niveau graphique, comment dire, au niveau de la tête qu'a l'univers, en fait, je sais pas si tu as vu le film qui s'appelle Le Chasseur de Dragons, qui est vraiment très chouette, hein, un film d'animation.
Non, pas vu.
Non. Ou bon, je suppose dans ce cas que tu as lu Le Petit Prince, car tu es vieux.
Oui. J'ai lu Le Petit Prince.
Donc, tu sais, dans Le Petit Prince, il y a des personnages qui sont sur de toutes petites planètes. Tu sais, comme dans les illustrations du livre classique.
Oui.
Et en fait, là, c'est exactement ça. Donc, il y a le temple lui-même est sur une petite planète, et il y a d'autres planètes comme ça, où des fois, il y a juste une maison dessus.
Et les planètes sont toutes rondes, ou il y a des planètes à Shadok aussi avec des...
Je pense pas. Voilà, le jeu sera bientôt disponible. Moi, j'attends ma version ma version papier qui devrait me parvenir. Oh, allez, d'ici un bon mois. Et puis, je pense que ce sera peut-être pas pour la prochaine émission, mais celle d'après. Je pense que je ferai une petite review de ce jeu.
Excellent. Je me pose aussi une question. Parce que, enfin, quand même, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès, visiblement, sur la base d'une simple promesse.
Oui, oui, tout à fait.
Un jeu de rôle sur ce thème. Est-ce qu'il a eu du succès, peut-être, parce que les auteurs sont connus, ou parce que
les amis des
auteurs sont riches?
Oui, l'auteur est plutôt connu, c'est Daniel Solis, qui
ça
a déjà,
chose, hein.
Il a déjà plusieurs jeux à son actif, hein, des jeux indépendants. Et donc, d'autre part, les illustrations sont plutôt belles, comme tu as pu le voir. Donc voilà, je vous parlerai de ça probablement dans les prochains mois. Alors, et tout de suite, je vais vous parler du Trône de Fer. Alors Cyril, tu aimes les beaux chevaliers?
Les beaux chevaliers, et puis bien sûr les reines perverses et manipulatrices.
Ah, bah écoute, ça tombe extrêmement bien. Puisque figure-toi que j'ai dans ma besace le jeu de rôle du Trône de Fer, donc dans sa version française qui est parue chez Edge. Alors, avant de vous parler du jeu lui-même, je pense que c'est utile un petit peu de... Donc, Cyril, tu arrêtes.
J'ai froid.
Mais... Et oui, c'est normal, l'hiver vient.
Ah, tout s'explique.
Je suis absolument désolé, il m'a forcé à faire cette blague pourrie. Bon, maintenant je peux parler, je peux y
Oui, bien
retourner?
sûr, oui, je t'en prie.
D'accord. Donc, que je resitue un petit peu l'univers du Trône de Fer. Donc, à la base, c'est une saga romanesque écrite par George R.R. Martin. Donc, tous ceux qui ont R.R. dans le prénom, faut les surveiller. Cette série compte, je sais plus combien exactement de volumes en VO parce que c'est différent de la VF. Je sais plus combien il y en a,
Beaucoup.
4 ou 5 qui sont vraiment énormes. Cette série a été récemment adaptée en série télévisée avec brio.
C'est juste, je t'interromps parce que il y a eu aussi un jeu de plateau qui est vraiment très très bien. Parce que bon,
Ah
il y a eu
oui,
l'adaptation
en effet,
à
oui.
la série qui fait un carton en ce moment, mais il y a aussi le jeu de plateau qui est vraiment super.
Oui, qui est plutôt pas mal. Et qui a
Et
plusieurs
il y a même
extensions.
aussi eu, si ma mémoire est bonne, un jeu de cartes à collectionner.
Oui, tout
Ouais.
à fait.
Et si ça se trouve, il y a eu des adaptations diverses et variées, un jeu de figurines, un film porno, on peut tout imaginer, hein.
Il y a probablement déjà une version porno. Alors, il faut que je décrive un petit peu l'univers pour ceux qui connaissent pas du tout. Donc, c'est un univers de fantasy, mais plutôt de low fantasy, c'est-à-dire que la magie ou les phénomènes surnaturels sont présents dans le prologue du livre, puis disparaissent pendant 3 ou 4 volumes français. Donc, c'est vraiment mis en arrière-plan par rapport aux luttes politiques de haute volée qui se déroulent à Port-Réal, qui est donc la grande ville où se trament tous les complots. Ce jeu se propose d'incarner des personnages qui ont les mêmes qui sont dans le même univers que les personnages du livre. C'est un peu comme tous les jeux qui sont des adaptations d'univers connus. C'est-à-dire que si on aime bien l'univers, on va forcément retrouver avec plaisir les personnages et les lieux principaux. Et je dois dire que de ce point de vue, cette édition est plutôt bien faite. C'est un livre qui est plutôt agréable à lire. C'est bien écrit, ça passe tout seul. Même, et là, un coucou à nos amis de Dissident. Oui, eux, même l'historique est sympa à lire et ça reste toujours compréhensible et appréhendable, même si on connaît pas tout par cœur. Je te fais un bref historique du monde de Westeros, donc qui est le monde de l'univers du Trône de Fer. Le monde de l'univers, n'importe quoi. Donc, un bref historique de Westeros. Donc, c'est une grande île qui a à peu près la forme de l'Angleterre et sur laquelle se trouvent 7 royaumes. Et il se trouve qu'il y a 17 ans, il y a un empereur fou a été détrôné et toute sa suite massacrée. Et a été mis en place un nouveau roi avec lesquels ont été forgées des alliances entre les différents royaumes. Et nous sommes 17 ans plus tard et cet équilibre précaire va être remis en cause puisque on se rend compte rapidement que les intérêts divergent et divergent, c'est énorme entre par exemple les Lannister qui sont les plus riches qui
Le
sont
clan des Lannister, c'est ça?
le clan des Lannister, oui, l'un des royaumes en question. Ce sont les personnages les plus détestables de la série de livres. mais aussi les plus riches. Il y a les Stark qui sont un peu l'incarnation des personnages héroïques et chevaleresques, pleins d'honneur, et qui évidemment se font rouler dessus dans cette série de bouquins, puisque les gens avec de l'honneur, dans la vraie vie, ça passe mal. Il y a également les Greyjoy, qui sont un peuple marin qui vivent surtout de pillage.
C'est donc, un peu les Vikings ou les Irlandais ou...
Oui, un peu comme ça. Leur devise est « nous ne semons pas », c'est-à-dire qu'ils pillent.
Ou ils pêchent peut-être.
Donc il y a les Baratheon, c'est le cerf couronné, c'est le nom de la famille royale. Il y a les Tyrell, il y a... enfin bref, toute une série de peuples super, super intéressants.
Et l'univers, donc c'est le trône de fer, c'est le trône de l'empereur.
Alors voilà, oui, le nom du jeu tire son nom du trône sur lequel est assis le souverain des sept royaumes.
Et pourquoi on l'appelle le trône de fer ?
Parce qu'en fait, son trône a été forgé à partir de centaines d'épées et le tout a été fondu par le souffle d'un dragon.
Ah, d'accord, ça donne le ton, mais en fait, c'est un trône qui est à la fois puissant mais dangereux.
Oui, parce que...
les épées coupent toujours, en fait.
Oui, voilà.
Donc, les empereurs font très attention où ils posent leurs fesses, en fait, quand ils sont en réception officielle.
Si tu as des petits problèmes d'hémorroïdes, par exemple, c'est super douloureux.
La situation que tu as décrite, ça me fait vraiment, vraiment, mais vraiment penser au roi maudit de Druon.
Oui, tout à fait.
Donc, est-ce que Maurice Druon et Georges R.R. Martin, même combat ? Parce qu'en fait, ça fait penser à des querelles de voisinage qui ont dégénéré.
Qui tournent mal, oui.
Oui, sauf que c'est pas la voisine qui se trompe de poubelle pour le recyclage. c'est des chevaliers et des armées de cutéreux qui se sont massacrés. Pillés, violés par des chevaliers qui n'ont rien de chevaleresque. Et puis c'est le royaume de Real Politique avec les mariages arrangés, les alliances de circonstances entre ennemis.
Les empoisonnements, les traîtrises. C'est très riche, c'est une série qui est très riche en héros qui meurent prématurément.
Ah oui, alors ça c'est une des caractéristiques dont on parle le plus pour les romans. Du trône de fer, c'est le fait qu'on s'attache au personnage,
oui.
Et puis sans vous avertir, alors que vous pensiez que c'était le et personnage qui allait rester longtemps,
et en une demi-page,
Monsieur Martin les fait mourir de façon horrible.
Et le personnage est expédié en une demi-page, hop, ça y est, il est mort au suivant.
Il faut pas s'attacher au personnage, en fait.
Pour reprendre un petit peu sur le jeu lui-même. Donc, les personnages incarnés sont choisis dans peuvent être de n'importe quel statut social du monde. Simplement, on essaye de faire en sorte qu'ils soient plus ou moins dans la même famille,
oui.
Que ce soit comme serviteur, comme garde, etc., comme lettré.
Oui, c'est pas un jeu où les joueurs sont censés comploter les uns contre les autres. A priori, ils sont plutôt dans le même camp.
A priori, non. Bien qu'il puisse y avoir parmi les joueurs, l'un d'eux peut être un pupille, c'est-à-dire les enfants qui sont gardés en otage pour éviter que leurs parents ne se rebellent.
Alors, est-ce que je peux me permettre j'avais fait ma petite blague là sur le fait que j'ai froid et parce que l'hiver vient. Tu peux expliquer cette phrase ?
Alors, l'hiver vient est la devise de la maison Stark. Elle désigne aussi une menace qui est en toile de fond dans les romans et dont on n'a eu que quelques manifestations. C'est-à-dire le fait que tout au nord, là où il y a ce que l'on appelle le mur, bien au-delà, dans les contrées froides et désertiques, il y a des créatures appelées les autres, qui sont, on comprend qu'il s'agit plus ou moins de morts-vivants liés au froid, et qui sont prêts à déferler sur les royaumes. Voilà. Et donc la devise est que les Stark restent toujours vigilants et s'attendent toujours à ce que.
D'accord,
ça...
c'est un peu les gardiens quelque part de cette région et
voilà,
du mur.
Exactement.
Juste derrière le mur, il y a une région avec des sortes de Picts, des barbares qu'on
oui,
appelle
ce
les sauvageons.
Oui, ce qu'eux-mêmes appellent les sauvageons, oui.
Rien à voir avec Chevènement, c'est des sauvageons tout à fait différents et qui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans l'Hivervien une référence au système comment dire, géographique, enfin, pas géographique, mais plutôt comment on dit, météorologique un peu spécial, avec des saisons qui,
oui,
et des petites saisons, des grandes saisons.
Voilà, dans cet univers, le cycle des saisons a quelques problèmes, puisque une saison peut durer plusieurs années, voire plusieurs siècles. Donc, par exemple, les... lorsque le roman commence, c'est la fin d'un été qui a duré 20 ou 30 ans.
Et à l'intérieur de ces grandes saisons, il y a des petites variations de température
oui, voilà,
qui permettent un rythme un peu normal.
Voilà, qui permettent aux
en
arbres
gros, les
de
grandes
fleurir.
Saisons
ou...
donnent le ton sur de longues périodes. Donc là, l'été, c'était très bien. Il faisait beau d'une manière générale. C'était favorable à l'activité humaine. Là, durant la série de romans et puis au moment où commence un peu le jeu... c'est l'automne,
oui,
c'est
tout
ça.
À
donc,
fait, oui.
Les choses commencent à se gâter un petit peu, et on craint tous l'arrivée d'un hiver interminable qui sera
dure
le...
des centaines d'années avec d'affreux monstres
voilà.
Dans le blizzard. Voilà, c'est un peu là tout le nœud du roman. Alors, au niveau du jeu, donc dans les règles proposent toute une série d'archétypes que l'on peut utiliser, qui correspondent grosso modo à des personnages du roman anonymisés en fait. Donc il y a le chevalier, l'héritier d'une maison noble, un septon ou une septa qui sont en fait des serviteurs de la foi religieuse, de la foi des sept, qui est donc la religion locale. C'est moitié précepteur, moitié...
Le clergé est aussi voilà, c'est eux qui s'occupent d'éduquer les...
Voilà,
d'accord.
Exactement.
Un petit peu comme en Europe, au Moyen-Âge.
Ouais, voilà, oui, voilà, c'est ça. Oui. Il y a également les maîtres qui sont ceux qui savent envoyer des petits messages et les faire porter par des corbeaux, qui sont utilisés en général comme conseils pour leur capacité d'analyse et tout. C'est des intellectuels, quoi.
D'accord. Ils vont pas survivre très longtemps, alors, dans un scénario, non?
Si.
Ça fait un peu penser à Gandalf dans le Seigneur des Anneaux, avec ses super pouvoirs, allumer un petit feu ou faire un tour de passe-passe. Ah bah, je suis un grand maître, je peux parler aux oiseaux.
Ah non, c'est
mais
fou.
Là, il y a une bataille,
Gandalf,
chef.
Gandalf, il a le super pouvoir, je sais casser des ponts.
Ah oui, effectivement.
Tu vois. Hein. Mais
et mourir
même...
en même temps, ouais,
oui,
c'est ça.
C'est le seul
c'est
problème.
Son super pouvoir, mais il est obligé de mourir.
C'est le seul problème. Alors justement, les personnages d'intellectuels, au contraire, ont à mon avis une durée de vie plutôt conséquente dans ce jeu. Car le système est plutôt pas mal fait. En fait, tu as en gros un système de combat uniquement dédié à l'intrigue. Donc ce qui te permet de faire des combats d'intrigue lors d'un conseil avec le roi. Tu veux faire peser ta position et tu sais que la reine est contre. Et voilà, donc tu vas essayer d'utiliser des arguments qui vont retourner l'assemblée à ton avantage. Et puis de porter les stockades, etc.
D'accord.
Et en fait... donc lorsque tu fais ce type d'intrigue, en fait tu dois accumuler en quelque sorte plusieurs victoires d'affilée dans différents domaines, ce qui en fait revient à plusieurs rounds de combat avant d'arriver à une issue à celui-ci.
Non, mais ce type de règle, c'est pour les faibles. Les forts, ils vont voir le MJ directement, le maître de jeu, et puis ils discutent avec lui après et avant la partie, et puis c'est bon. Oui, mais je dis ça, mais je suis joueur hein, du Trône de Fer, et je vais faire ma intention de trahir tous mes camarades à un moment donné de la campagne.
c'est pas forcément utile.
Par principe.
Ah, c'est par principe. Alors ça va si c'est pour le principe. Oui, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce système. En gros, il y a des compétences. On lance autant de D6 que la compétence, on ajoute les dés. Puis il y a des histoires de dés de bonus, de modificateurs, bref, du classique. Et voilà, un petit peu tout. Donc l'intérêt de ce jeu, c'est évidemment d'être dans un monde d'intrigue, quart Westeros est très riche, en sachant que chaque famille en fait a une relation au moins ambivalente avec chacune des autres, avec tel personnage a fait telle chose à mon ancêtre et voilà, donc les références au passé en fait sont constantes, et donc il y a des vengeances ou des trahisons qui s'étendent sur plusieurs dizaines d'années et sur plusieurs générations et personnages. Et c'est un jeu aussi.
Là, je t'interromps. Est-ce que c'est un peu comme dans Pendragon où tu vas interpréter vraiment une dynastie de père en fils et essayer de faire grossir un peu ton fief?
Alors, c'est pas autant corrélé à la famille que dans Pendragon, par exemple. C'est vu que là, tu joues des gens de la même. D'une même maisonnée, si tu veux, mais qui ne sont pas tous de la même famille. Donc leur intérêt sur le long terme sera différent. Mais en revanche, les joueurs peuvent utiliser des points pour faire progresser leur domaine que tu peux créer manuellement avec il y a des règles et tout. Donc pour savoir si tu as juste un petit lopin de terre qui est absolument incultivable et qui est rempli de brigands, ou alors si tu détiens Port-Réal.
Ça va être un jeu aussi où tu vas essayer, avec tes petits camarades, donc d'agrandir ton domaine aux dépens du voisin en faisant des intrigues locales quelque part.
Oui, voilà, oui, c'est ça. Faire une alliance,
oui,
faire un mariage.
Tu es obligé de jouer... une grande campagne d'enquête à Port-Réal, ça peut être aussi, on reste dans son domaine et on...
Oui, tout à fait.
C'est le fou de la misère au type qui a les prés d'en face, parce qu'on veut...
Oui, voilà, parce qu'il a 10 moutons de plus que toi, et ça, c'est absolument intolérable. Et, Oui, voilà, on peut faire de l'intrigue locale. Là, il y a justement, il y a un nouveau supplément qui est sorti pour ce jeu, donc qui concerne, qui est en gros un atlas de Westeros, donc qui va beaucoup plus dans le détail que ce que fournit le livre de base.
Et qui décrit aussi hors de Westeros ou qui se concentre sur Westeros?
Ah, de toute façon, c'est.
Ce que je veux dire,
Westeros, je crois que dans le supplément, il y a également les cités franches.
Dans les romans,
tu sais,
on découvre un petit peu ce qui se passe en dehors du continent aussi.
Oui, tout à fait. Oui, c'est le cas également dans ce livre-là.
Donc pour ceux qui aiment les romans, ça pourra être
une
acquisition sympathique, quoi.
Ouais, franchement, le bouquin est très agréable à lire. Les illustrations sont inégales, mais ça passe. La couverture représente une scène qui se déroule donc 17 ans avant l'action des romans. Donc c'est le célèbre combat de
Robert Baratheon.
Contre Rhaegar Targaryen.
À tes souhaits.
Voilà. Donc c'est vraiment un chouette bouquin si vous aimez la série de romans ou la série télé. Ça peut être un bon investissement. Mais je pense que c'est plutôt fait pour faire du jeu en campagne, vu ce que ça permet.
Oui, parce que c'est là que l'originalité du monde pourra certainement mieux se déployer, sachant que si on fait une partie comme ça, bah, ça reste du médiéval fantastique très normal. Hein, mm-hmm. Des chevaliers qui font des joutes, qui... Il n'y a même pas de dragons finalement à aller attaquer, donc ils font des petites guerres de barons.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais ensuite, c'est vrai que ce monde a une certaine profondeur qu'on découvre grâce à une présence sur une longue période avec la menace montante des sauvageons et puis même des autres derrière.
Mm-hmm.
Les désordres dans le royaume de Baratheon suite à des événements qu'on ne va pas spoiler pour le...
Suite à des événements tragiques.
On vous a dit que le personnage mourrait.
Bon, eh bien voilà, je pense avoir fait le tour. Donc voilà, avec l'arrivée de cette série télévisée, je pense que c'est le moment idéal pour se mettre à ce jeu de rôle. Voilà, Cyril.
Ok, merci Cobal, le trône de fer, recommandé.
Et maintenant, c'est à toi de nous parler d'un jeu au nom imprononçable, c'est bien cela ?
Oui, je vais vous parler de Code of Unaris.
Alors, Code of Unaris.
Code of Unaris.
Code of
Unaris. Allez.
Code of Uranus.
Non, Code of Unaris, s'il te plaît. Code of Unaris, qui est sous-titré Chat role-playing. Alors, je vais tout de suite vous expliquer le titre. Code of Inaris, c'est un jeu
où l'on miaule.
Non, c'est un jeu vidéo, en fait. C'est une sorte de mude ou de muche. Vous savez, ces jeux purement texte auxquels on jouait dans les années 1980-90 avec le protocole Telnet. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est un univers virtuel qui a cette particularité qu'il est aussi réel parce que les créateurs du jeu ont utilisé un algorithme super puissant, super original, et en fait ça a créé une sorte de trou de ver par internet qui nous a reliés au futur antique de la Terre.
Mais dis-moi, ça m'a l'air bien fumé comme concept.
C'est bien fumé. Et voilà, Unaris, c'est en fait le nom de l'endroit où vit l'humanité il y a plus d'un milliard d'années. 1 100 000 000 d'années. Donc, pour dire que l'humanité est vieille. Voilà. Alors, je vais vous parler un peu plus du background. Et ensuite, je reviendrai sur le côté chat. Parce que donc, c'est un jeu de rôle qui se joue par chat. Alors, le background. Très brièvement, en fait, Code of Inaris, c'est un jeu qui propose aux joueurs de lutter contre un sorcier maléfique qui souhaite détruire l'humanité. Alors, c'est un sorcier très puissant qui a détecté d'ailleurs cette espèce de trou de ver, de lien vers le futur avec ce jeu qui a été créé là, Code of Inaris en 1990 et des brouettes ou en 2004. Et les créateurs du jeu se sont dit, on sait que l'humanité a survécu jusqu'ici, mais il faut faire quelque chose pour éviter que l'humanité disparaisse dans le passé. Bon, c'est un peu compliqué, mais il y a de ça. Alors en fait, il y a deux époques qui servent de terrain de jeu pour ce jeu. Enfin, le principe du jeu, c'est que vous jouez en fait. Vous êtes vous-même en train de chatter. C'est le principe du jeu, et c'est une sorte de moyen d'atteindre le passé antique de la Terre, et même plus précisément de la Lune, parce qu'en fait, si je me souviens bien, Unaris, en fait, c'est la Lune, parce qu'il y a 1 milliard d'années, bien sûr, l'humanité vivait sur la Lune. Alors, il y a deux époques qu'on peut atteindre par l'intermédiaire du jeu en chat. Il y a le troisième âge et le quatrième âge. Il y a plein d'âges, hein, c'est un jeu à âge. Le troisième âge, c'est un âge médiéval fantastique très classique, avec une civilisation, j'ai envie de dire, un peu lambda. Elle n'est pas si lambda que ça, parce qu'elle a ses petites particularités. Par exemple, les mathématiques sont très prisées. C'est un jeu qui met en avant les mathématiques. Mais aussi, en gros, il y a un empire, il y a des royaumes, il y a des barbares, il y a un peu de tout. C'est du médiéval fantastique un peu classique, avec des monstres et tout. Et le quatrième âge, c'est un monde en fait où il y a le sorcier, the warlock, qui a un peu réussi son coup, parce que là, la surface d'Unaris est complètement gelée. Il est impossible à la vie de subsister à la surface. Heureusement, les dieux sont passés par là et ont donné un petit coup de main, en gros en sacrifiant plus ou moins leur vie, pour bâtir quelque chose qui s'appelle the Alphar Tower, donc la tour Alphar, qui est en fait une gigantesque tour, construction souterraine, etc., dans laquelle s'est enfermée toute l'humanité. Donc c'est vraiment assez grand, hein, on parle de dimensions géographiques plus qu'architecturales. Et donc le quatrième âge, c'est une période de vie souterraine, avec une atmosphère beaucoup plus sombre que lors du troisième âge, et puis une humanité qui vit repliée dans d'immenses cavernes. Et puis, au fond, on sent que la dégradation s'opère petit à petit. Hein, la tour Alphar, elle va pas tenir toute l'éternité, en fait. Voilà. Il y a une sorte de mélange des genres entre ces trois époques, hein, entre 2004, peut-être la date de parution du jeu de rôle, aux éditions Gold Leaf Games d'ailleurs, édition dont je crois on n'a pas beaucoup entendu parler par la suite, mais j'ai pas vraiment suivi l'affaire, et puis les deux époques qui servent en fait de terrain de jeu aux personnages durant les parties, qui sont le troisième âge et le quatrième âge. Alors, d'accord. Je sens que tu veux me dire quelque chose.
Comment ça se passe en vrai?
Alors, déjà, comme dans tout jeu de rôle, on va créer un personnage.
Oui.
Là, c'est vraiment un jeu de rôle où les règles sont assez légères. La création de personnages est très simple. Il y a des prêts tirés dedans. Je te montre vite fait une fiche de personnage. Tu peux voir que c'est... Voilà,
c'est plutôt simplissime.
C'est plutôt simple. On a quelques compétences, une armure, etc. On peut avoir une pièce d'équipement, par exemple.
D'accord.
C'est-à-dire que si on a un cheval, on doit le quitter pour avoir sa voiture.
Une épée.
Enfin, on est à peu près là, quoi. C'est-à-dire que c'est assez minimaliste de ce point de vue-là. Et c'est quelque chose d'ailleurs que j'apprécie parce que ça laisse plus de place au jeu et au plaisir de jouer plutôt qu'à se créer un personnage auquel on s'attache aux possessions. On dort avec avec la fiche de personnage. Non, là, c'est un jeu qui est fait pour être joué quelque part. De ce point de vue-là, c'est vraiment très sympathique. J'ai de très bons souvenirs de parties à moitié improvisées avec des règles bidons et où on a quasiment rien sur la fiche de personnage. Je suis sûr que toi aussi. Mm-hmm. Et on peut très bien vivre avec juste une pièce d'équipement et tout.
Oui, bien sûr.
En plus, ça permet de vraiment de communiquer avec les autres et de se définir en fonction d'un objet. C'est très sympa. Bon, ça, c'est juste un exemple, hein, mais il n'y a pas énormément de règles.
Mais donc, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Il faut être connecté.
Oui, alors attends, j'y viens.
D'accord.
Juste, puisque tu m'as lancé sur le gameplay, là,
oui,
tout de suite, je te dis que.
Je te sens chaud.
C'est un système sans dé, parce que en fait, c'est fait pour être joué par chat.
Oui.
Du coup, comme dans tous les systèmes sans dé, en fait, il faut beaucoup jouer avec les circonstances, je pense.
Oui.
Pour les mettre de son côté et donc augmenter ses chances de réussir une action donnée. Et le gameplay est caractérisé, donc ça c'est assez particulier, par le story hack. Donc on a 20 points de hack parce qu'en fait on peut changer les règles en cours de jeu grâce à ce pouvoir qu'on a par le chat.
Tu peux hacker les règles pour...
Oui, parce qu'en fait vraiment dans le background, le chat est vraiment intégré dans le monde du jeu, quoi. Donc c'est un outil, etc. Donc imaginons que le maître de jeu dise soudain vous arrivez devant un mur de 6 mètres de haut.
Oui.
Les joueurs ont 10 secondes pour hacker quelque chose qui vient d'être prononcé, et donc quelqu'un peut dire non, en fait le mur fait 3 mètres de haut et il dépense un point pour ce hack.
D'accord, mais est-ce qu'il peut dire par exemple le mur fait bien 6 mètres de haut mais il est en gelée de framboise?
Je sais pas, en fait je voudrais pas dire de bêtises.
D'accord.
Il peut faire des modifications, oui,
dans une certaine mesure,
oui.
D'accord.
Alors sachant que en fait c'est un peu comme les points de trahison à Paranoia ou comme le paradoxe à Mage, c'est-à-dire que
ou les points d'héroïsme à Toan.
La mécanique que je veux dire, c'est que si on modifie trop l'histoire,
oui,
on risque d'être repéré par le sorcier qui va vous taper sur les doigts de manière très, très puissante. Donc, en fait, on peut changer ce qui se passe, mais c'est
avec,
pas toujours la bonne
peut-être
idée.
Un contre-coup éventuel.
Exactement, il y a des contre-coups, il y a aussi des mots qui sont pas changeables, en fait. On peut pas vraiment influencer sur ce que le sorcier fait, ce genre de choses.
Mm-hmm.
Sinon, de toute façon, percussion et peut être mortelle pour le personnage.
D'accord.
Donc ça c'est très sympathique, hein. Donc c'est la mécanique de jeu qui caractérise le plus, je pense, ce jeu. C'est on peut changer un peu ce qui se dit. On peut trouver ça dans plein de jeux, hein. Je me souviens par exemple Adventure, un jeu de pulp où on peut changer ce qui se passe pour que ça soit encore plus
encore pulp.
Ou alors un autre jeu où on peut rebondir en disant mais oui d'ailleurs mon oncle habite ici et enfin voilà.
Ah, d'accord, oui,
bref,
tu peux modifier enfin tu as des outils de narration pour modifier le fil des choses.
Ouais, donc ça c'est vraiment très bien. Je pense que ça serait un vrai plaisir à jouer. C'est ce qui vraiment permet de bénéficier du format du jeu, quoi, qui se joue par chat.
Oui. Mmh.
Je voudrais revenir un petit peu donc sur le chat en tant que médium de jeu.
Oui.
C'est assez particulier parce que bon, c'est une méthode de communication. Je pense que tout le monde a chatté et voit ce que c'est, hein. MSN, ICQ et et autres logiciels de messagerie instantanée. En fait, le chat, c'est très différent du... alors, j'ai pas testé le jeu, hein, donc ça, c'est juste mon opinion personnelle. Le chat, c'est pas comme se réunir autour d'une table avec un coca et puis un peu de bouffe. On peut déjà diviser son attention. On peut chatter tout en écoutant de la musique, en regardant la télé, ce genre de choses. Donc c'est assez spécial. Et puis il y a aussi le côté, les sentiments se développent de façon différente sur le chat. Hein, c'est aussi oui. pour ça que souvent l'amour sur Internet, c'est assez étrange. En tout cas, quand on essaie de le transposer dans
ça dépend s'il y a des images ou pas.
Voilà, je ne sais pas. Et puis aussi, c'est un médium qui se prête vraiment bien au jeu avec les mots, au duel de mots quelque part.
Oui.
Ça, c'est intégré donc, dans le système de jeu, c'est vraiment bien fait.
Oui, si on est un petit peu en verve, c'est mieux en fait.
Ouais, je pense qu'en fait, c'est excitant si jamais la mayonnaise prend.
Oui.
Disons qu'on peut s'adapter très facilement face à un interlocuteur en chair et en os. Si je suis le maître de jeu et que je vois qu'il n'y a pas de réaction qui s'emmerde, je vais changer. Je vais avoir une perception différente de. Des joueurs et je vais peut-être m'adapter différemment, alors que là si je suis le maître de jeu derrière mon écran et je vois les joueurs qui répondent mais je me demande si ça pose pas de gros problèmes pour le maître de jeu, si ça peut se jouer aussi facilement. En même temps, si les joueurs ont bien aimé le principe et ils ont déjà une pratique du chat pour le plaisir parce que je sais pas, ils vont chatter avec leurs amis ou dans un jeu même, ils peuvent dans un jeu vidéo par exemple, il y a pas mal de fonctions de chat, hein, c'est très répandu, donc il y a des gens qui aiment bien ça, qui aiment bien papoter. S'ils ont cette tendance là, je pense que ça peut vraiment
ça peut bien marcher.
Ouais, ça peut bien marcher.
D'accord.
Mais voilà, je sais pas ensuite ce que ça peut donner.
L'adaptation a été pensée uniquement par une interface texte. C'est-à-dire que vu que maintenant,
et dans le background aussi.
Comme tu disais, il y a plein d'outils pour faire de l'audio assez facilement. Et cette option n'a pas été envisagée dans le jeu. Juste une question.
D'accord, hein. Non, effectivement, c'est juste du chat texte.
D'accord.
Mais après tout, je pense que rien n'interdit d'utiliser Skype, TeamSpeak, Ventrilo, Mumble ou un autre logiciel audio pour communiquer pendant qu'on chatte. Hein. C'est pas
compatible. Ah oui, en plus.
Oui, alors, donc j'ai pas joué. Mais j'ai adoré lire Code of Unaris. Je me souviens que je l'avais mis 5 étoiles, je crois, dans Backstab à l'époque. Hein,
parce que ça date de l'époque. Voilà.
Et
ça t'avait vraiment beaucoup plu.
Je crois que ça il me semble, à coup sûr, mais que ça a aussi remporté un Diana Jones Award. Au moins, c'était en compétition, mais ça en a peut-être remporté un. Et ça ne me surprendrait pas parce que c'est innovant. Et je ne sais pas si ça a eu... du succès par la suite ou même sur le moment, c'est un peu un ovni pour moi que j'avais récupéré à une convention aux États-Unis, mais là je sais pas s'il y a si ça fait des bébés, je crois pas en fait, je pense que ça a dû être éphémère. J'ai envie de dire c'est un peu le passé aussi, le chat maintenant, il y a toujours
oui c'est vrai,
il y a toujours d'autres.
Ça aurait été bien de mettre ça en 95 ou 96.
C'est ça, voilà. À une époque où vraiment les jeux vidéo n'entraient pas en compétition aussi frontale avec
où il y a eu l'émergence des justement du chat texte.
Ouais. Maintenant, quand on dit chat, les gens pensent charoulette là où qui n'est pas du texte hein, mais de la vidéo.
Oui, au hasard. Sauf que sur cette roulette en plus il y a des types qui se touchent et tout.
Je veux pas savoir. Voilà, donc que dire, les illustrations sont sympathiques, hein, sont pas. Voilà. Y a un plan qui existe grand format, mais il y a déjà des petits plans qui sont fournis dans le livre.
Alors, est-ce que tu sais s'il y a une communauté
Non, je sais pas, je peux pas dire, j'en sais rien du tout. J'ai pas bien préparé ce sujet parce que j'aurais dû pouvoir répondre à la question, mais j'espère qu'il y en a une parce que vraiment je trouve ça assez convaincant et je serais curieux de savoir si des joueurs ont pu jouer des années avec ça. Bon, c'est un jeu qui est très sympathique par son côté. Ils ont intégré le format dans le background, on fait des voyages dans le temps en fait. Les joueurs interprètent des personnages par l'intermédiaire du chat, qui est en fait une sorte de code limite magique qui permet
de franchir
la barrière du temps pour aller interagir et aider, bien sûr, les humains d'il y a un milliard d'années qui vivaient sur la Lune avant de s'enfermer dans le sol, dans une immense construction divine.
Je ne sais pas si tu connais le jeu dont vous êtes le héros, La Quête du Graal, la série.
Ah, La Quête du Graal, un grand classique.
Et où il y avait le sortilège du filet, c'est-à-dire s'emparait de l'esprit du lecteur afin qu'il soit incarné dans Pip.
Oui, c'est vrai que ça y fait penser un petit peu. Ouais. Y a de ça.
Et, sauf que dans ce jeu-là, dans celui que tu nous présentes là, il n'y a pas Excalibur Junior.
Et Merlin n'est pas une espèce de...
De fou qui vit dans un dé.
Ah, il faudrait qu'on en reparle peut-être de La Quête du Graal à l'occasion, ou des meilleurs livres de l'Euro qui nous ont marqués. c'est à garder en mémoire pour la suite peut-être. Donc juste vite fait, je voudrais lui rendre hommage. Donc l'auteur du concept original s'appelle Gary Pratt avec deux T. Et Code of Unaris, je ne sais pas si c'est encore disponible. C'était édité par une petite boîte indépendante, Gold Leaf Games, donc les jeux de la feuille d'or. Donc si vous êtes intéressé par un jeu un petit peu original pour avoir une lecture un peu sympathique, c'est 314 pages, un format c'est plus petit que du A5, ça, non?
Oui, j'ai l'impression, ouais.
C'est vraiment assez petit, ça tient vraiment dans une main. C'est très agréable à feuilleter et on a aussi des choses qu'on s'attend pas à trouver dans un jeu de rôle comme
qu'est-ce que ça va être?
Non, mais un rappel des abréviations qui coulolent dans le chat. Alors, HF, have fun, etc.
Des
Be back later, good game, go to go, laughing out loud. Voilà, donc ça c'est la version anglaise. Hein. Il n'y a pas de version française, mais il est là. Un guide des émoticônes, enfin, voilà. Et puis aussi un guide d'exclamation de choses à dire
OMFG
non pour le personnage du style c'est juste une tis merely a flesh wound enfin des trucs comme ça c'est rigolo voilà donc c'est un jeu qui vaut le coup d'être feuilleté au minimum. Et je pense que si vous avez l'occasion de vous le procurer pour pas cher et que vous êtes intéressé par les jeux de rôle qui sortent de l'ordinaire, qui explorent de nouvelles frontières, et ben voilà, celui-là est fait pour vous.
D'accord. Eh bien,
bien écrit. Et tout.
Ben merci Cyril pour cette présentation d'un ouvrage peu commun dont je n'avais jamais entendu parler. Et maintenant, je vais te parler de quelque chose de très connu.
Oui.
Puisqu'il s'agit de la gamme In Nomine Satanis Magna Veritas. Donc, je vais vous présenter ma gamme préférée entre toutes, hein, qui est In Nomine Satanis Magna Veritas. Donc, à l'attention de nos plus jeunes auditeurs et de tous ceux qui auraient été au purgatoire lors des 20 dernières années, je vais vous resituer un petit peu l'action. Donc, ça se passe à Paris et plus généralement en France, dans un maintenant qui va des années 90 à nos jours au fil des suppléments, mais ça j'y reviendrai. Donc on y incarne des anges ou des démons incarnés sur Terre pour subvenir aux besoins du grand jeu.
D'accord, mais grand jeu au sens les Russes contre les Américains ?
Non, pas celui-là. Non, un autre. Donc étant donné que je lis l'incompréhension dans tes yeux, je vais développer. Donc c'est la lutte le grand jeu, c'est la lutte du bien contre le mal, donc qui est orchestrée par Dieu lui-même. Donc pour prouver à son ancien disciple, Satan, que celui-ci se trompe. Et donc, chaque camp envoie sur Terre ses anges et ses démons pour tâcher de convaincre l'humanité de basculer dans son camp. Et donc, et ce, au travers des aventures que vont vivre les personnages.
Je t'en ai... Donc, en fait, Dieu, il organise le combat contre Satan, quelque part par dépit, c'est ça? En fait, il n'a pas le bien-être de l'humanité à cœur?
Non, parce que en fait, il laisse le choix à l'humanité de choisir le bien ou le mal. Et ce sont donc ces anges qui sont chargés de transmettre le message. Et de même pour Satan de son côté, qui ne s'en prive pas. Donc, comme tu le vois, INSMV, comme on le dit en abrégé.
Donc, pourquoi les deux titres d'ailleurs ?
J'allais le dire.
Ah, d'accord.
Donc, c'est un jeu bicéphale.
Bicéphale, d'accord.
Voilà, donc c'est pas une insulte ou un problème urinaire.
Je sais ce que ça veut dire, bicéphale. c'est quand tu as trois manières d'aborder un sujet.
C'est un jeu qui est double, dans le sens où on peut jouer soit du côté du bien, donc avec des anges, soit du côté du mal en jouant des démons. In nomine Satanis, c'est bien entendu le côté maléfique, et Magna Veritas, le côté du bien.
D'accord. Les anges, c'est les gentils, et les démons, c'est les méchants.
Et les démons sont les méchants, voilà.
Donc voilà. Donc...
Officiellement, c'est ça. Mais en fait, le jeu est beaucoup plus...
gris.
Beaucoup plus complexe. Oui, beaucoup plus gris, tout à fait. Beaucoup plus complexe que ça, dans le sens où les intrigues entrecroisées des différents niveaux de hiérarchie angélique ou maléfique se chevauchent, et étant donné qu'il y a quand même beaucoup de magouilles de chaque côté, aussi bien du côté des anges que des démons, les démons peuvent être amenés à faire des choses pour le bien de l'humanité, et les anges le contraire. C'est là toute la subtilité du truc.
D'accord, c'est pas aussi simple que pour les humains contre les humains, par exemple.
Non, au contraire, il faut pas que les démons, par exemple, ils ont le droit de tuer des gens comme ça pour rire, tu vois, mais pas trop d'un coup, parce que c'est beaucoup plus intéressant de corrompre leurs âmes que juste de les tuer, parce que sinon ils vont au purgatoire, et puis et hop, le point va à Dieu, du coup.
D'accord. Ah, en fait, quand il y a des morts, il y a des points qui sont distribués. Non, c'est pas comme ça que ça marche.
Non, pas tout à fait, mais c'est un peu l'idée.
D'accord.
Donc, en fait, si j'aime cette gamme, c'est parce que c'est la seule qui, à mon sens...
Répond à ton besoin de spiritualité ?
Non, c'est la seule qui, à mon sens, s'attaque à l'actualité, tout simplement. Qui s'empare de personnages publics, de situations, de faits divers, parfois. Certains scénarios montraient une certaine idéologie, en fait.
D'accord. C'est un jeu satirique ?
Oui, c'est un... Enfin,
ça ne traite pas de l'actualité d'un angle sérieux, c'est, ça ne se prend pas au sérieux.
Bah, c'est à la fois une satire du monde de chrétiens et de la mythologie, en gros, catholique, en gros, et également une satire du monde actuel.
Je demandais si c'était une satire parce que je me souviens d'une critique de Croc, donc l'auteur...
L'auteur de la première édition de NES.
D'accord, c'est lui qui a inventé le concept avec Jehoran, c'est ça ?
Alors, il me semble qu'il a inventé le concept avec Zlika,
okay,
qui est l'un des auteurs de la... qui est un pote de Croc, et ils ont coécrit INS première édition.
D'accord, en tout cas, ils ont créé un jeu donc avec un angle qui évoque l'actualité, mais sous un angle vraiment très satirique.
Et très noir, et avec un humour très noir.
Et humoristique, humour noir, oui. D'accord. Mmh. Et en revanche, je me souviens d'une critique de Croc, alors je ne sais plus où exactement, je suppose dans un vieux backstab, où il le défonçait, il me semble que c'était un supplément en D20. Déjà mauvais point, sans doute. Mais sur la Somalie, je crois, ou l'Afghanistan, je ne sais plus quel pays.
Des vins Afghanistan.
Oui, quelque chose comme ça. Et qui abordait le sujet sérieusement.
Oui.
Un jeu de rôle dans un univers contemporain. Alors, je ne vais pas dire de conneries, hein. Je crois me souvenir, mais si ça se trouve, je dis vague, hein, avec l'âge et tout. Mais peut-être d'une manière plus générale, en France, on n'aimait peut-être pas trop aborder l'actualité de manière sérieuse. Je sais qu'il y avait eu un jeu comme ça il y a très longtemps, qui s'appelait Trauma, je crois, qui était sur l'actualité contemporaine, quoi, mais de manière sérieuse. Mais sinon, l'angle humoristique ou alors complètement fantastique a été le seul qu'on a utilisé il y a très longtemps, en fait. C'est limite choquant, un jeu qui n'aurait pas été humoristique sur l'actualité. Est-ce qu'on aurait pu refaire...
Attendez, mais des jeux sur l'actualité, tu peux me donner quelques exemples Parce qu'en fait, j'en vois pas tant que ça, quoi.
Alors, déjà, des jeux dans un contexte contemporain, il y en a eu des tas, notamment les jeux fantastiques. Nephilim,
Voilà. Mais qui jouent pas particulièrement avec l'actualité, pour le coup.
Non.
Le monde est contemporain, mais toutes les intrigues sont internes à l'univers, en fait.
D'accord. Oui, c'est vrai. Alors oui, ça laisse effectivement que des suppléments du style des vins Somali ou je sais pas quoi, des vins Somalia.
Oui, des trucs américains un peu obscurs.
qui décrivent l'armement du militaire envoyé là-bas. Qui expriment un point de vue qui est peut-être diamétralement opposé de celui du français franchouillard, avec son humour à base de jeux de mots, parce que je crois que c'est une gamme où il y a beaucoup de jeux de mots aussi.
Pour ceux qui aiment lire l'album de la comtesse dans le Canard enchaîné, il y a pas mal de choses.
C'est un jeu très français, finalement.
C'est
culturel,
très,
quoi. Les Américains n'auraient pas pu le faire.
Ah non, c'est vrai que c'est un jeu qui a vraiment... ça pioche dans toutes les références culturelles. Il y a même, dans la façon de parler, c'est un langage très familier. Il peut y avoir du verlan, des trucs comme ça. Et c'est marrant d'ailleurs, selon les époques d'écriture, il y a des tournures de phrases qui ne sont pas les mêmes.
Chaque auteur a vraiment apporté sa patte.
Ouais. Pour moi, il y a plusieurs périodes dans INS. Il y a la toute première, enfin, la team de base de Croc pour la première édition, à laquelle s'est greffé les jeux RAN, Twardowski, Timbre Poste, qui est-ce qu'il y a d'autres? Je crois que ça doit être à peu près tout pour ceux qui ont écrit pas mal.
7.7, non?
Patrick Renaud, c'était beaucoup plus tard, lui.
D'accord.
C'était beaucoup plus tard, mais il me semble que pendant la première édition, il n'y avait pas d'autres gens que ceux-là. Et ce que je trouvais, c'était que dans l'écriture, il y avait des situations ou des choses décrites, en fait, qui étaient le pari d'une autre époque que celle dans les suppléments de la troisième édition.
Comme c'est une gamme qui s'étend quand même sur tellement d'années, le contexte a dû changer. Au tout début des années 90, les téléphones portables, ils ressemblaient pas aux téléphones portables en 2010. Hein,
oui, bien sûr. Et puis, il n'est pas impossible qu'il y ait eu des suppléments où les personnages trouvent des infos sur Minitel.
Ah oui, je t'imaginais rejouer ça de nos jours.
Ce serait drôle d'ailleurs de faire un scénario un peu retour vers le futur, où tu fais un scénario qui se passe en 85, par exemple. Et tu vois toute la technologie. Il n'y a quasiment pas d'informatique. Donc voilà, oui, je te parlais des périodes d'écriture et tout.
Parlé de la première période.
Voilà, hein. Et c'est ce qui forge, en fait, je trouve, l'intérêt de cette gamme sur le long terme. Tu as les suppléments ne sont pas tous géniaux, loin de là, mais il y a quand même une cohérence, en fait, interne.
Et c'est-à-dire, c'est comme une grande campagne qui n'en finit pas ou c'est...
Non, bien que moi, je l'ai joué ou fait jouer comme ça. C'est-à-dire on est parti de la première édition et on a joué tous les suppléments jusqu'à Fire and Ice.
Ça fait beaucoup ça, non ?
Oui, on a beaucoup joué.
Et à quoi ça ressemble une aventure typique d'INS ?
Une aventure typique, les personnages sont dans leur quotidien et font je sais pas quoi. Soudain, ils ont un appel et ils doivent aller voir leur contact.
Ça fait un peu comme dans les films, les gens qui sont alertés par leur montre-bracelet. Ils abandonnent toute activité et ils se ruent vers leur...
C'est comme dans Bioman, tu sais, t'en as un qui est en train de faire de la moto,
ouais,
l'autre qui fait sa lessive. Il y en a toujours un en tenue ridicule.
Avant et après.
Et donc voilà, les personnages sont, vont vers leur contact. Celui-ci leur confie une mission et ils ont en général une situation à débrouiller, que ce soit aider un autre démon ou un autre ange selon le camp, ou tuer quelqu'un, ou résoudre un mystère, voilà.
D'accord, donc ça c'est pratique parce que c'est une mission, donc
ouais, c'est un jeu à mission.
Les joueurs sont cadrés.
Ouais,
et
voilà. C'est comme un jeu comme Cops, c'est-à-dire c'est très cadré exprès, et les personnages ont dès le départ un but commun qui est celui de réussir la mission.
Oui, et d'ailleurs peut-être c'est ça qui leur permet de ne pas s'entretuer dès le départ, comme dans Paranoia ou d'autres jeux, non ?
Non, non, quand même, ils ne sont pas à s'entretuer dès le début quand même.
Oui, d'accord, c'est pas aussi extrême. C'est...
Non, non.
C'est plus, ils peuvent s'autoriser des petits coups de pute.
Oui, voilà, non, ça, en fait, c'est comme des collègues de bureau, en fait. Ça... les relations sont à peu près les mêmes. Et certains s'entendent mieux entre eux, plus que d'autres, oui, etc. Maintenant, Cyril, je vais te présenter quelques suppléments. Bon, évidemment, c'est très personnel comme choix, mais ce sont mes suppléments préférés. Moi, je recommande vivement Even and Hell, qui, à mon avis, est l'une des meilleures campagnes qui est jamais parue. Donc, c'est une campagne écrite par les Géoran, dont le scénario s'appelle, il me semble, Le Pendule de Jean-Pierre Foucault. Oui, car INS aussi, est aussi connu pour ses titres de scénarios particulièrement débiles. Donc voilà, Even and Hell est à mon avis indispensable, il faut absolument jouer cette campagne. Je ne la déflorerai pas ici, mais faites-moi confiance.
Mais en tout cas, c'est un supplément qui pose de nouvelles pièces de background, ou c'est juste...
Oui, 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 c'est un... D'accord. Supplément qui à la fois contient du background et contient une grande campagne vraiment passionnante, avec des scènes d'émotion en plus.
Ah oui,
oui.
C'est, on s'y attend pas forcément dans un jeu comme ça.
Oui. Donc dans les suppléments plus récents, moi j'aime beaucoup le Liber Daemonis, donc le guide des démons, un supplément 3e édition, dans lequel on trouve... Pour chaque prince démon, de petites spécificités, des petites magouilles faites par ce prince qui influent plus ou moins sur le background et qui permet aux joueurs des démons en question de typer leur personnage en leur permettant d'être finalement plus proche de leur prince démon, c'est-à-dire en partageant ses secrets les mieux gardés. Alors, dans mes préférés, il y a le prince démon Kaïm. Pour plein de raisons personnelles. Sinon, toujours en 3e édition, j'aime beaucoup le supplément Old School, qui, pour les joueurs qui sont un petit peu lassés, que dans leur scénario, il y ait toujours un mélange de berserker, de vaudou, d'égyptien et autres, eh bien, il y a dans ce supplément des scénarios qui font uniquement appel au concept de base, c'est-à-dire des anges contre des démons, simple, efficace et de bon goût. Toujours dans la 3e édition, et toujours par l'excellente équipe de InStudio, il y a l'excellent guide de la 3e force, c'est-à-dire qui, par opposition au supplément Old School, lui s'attaque à faire une compilation de tout ce qui a été écrit pour le jeu et qui fasse appel à des forces autres que les anges et les démons. Donc les vikings, les sorciers, les sociétés secrètes diverses et variées. Et on peut... Alors moi j'aime beaucoup ce supplément également pour les textes assassins écrits par le philosophe de service CFC. Et franchement c'est un régal à lire. Bon, c'est un petit peu politique, mais j'aime beaucoup. Et c'est tellement dans l'esprit. Donc voilà, un bien bon supplément. Sinon, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors, il y a un supplément que j'aime vraiment beaucoup, et il est pas très bien noté, je crois, sur le Grog, et en fait, c'est l'un de mes suppléments préférés. C'est celui qui s'appelle Muchos Pesos Cafarnaum, et celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il y a des trucs qui servent à rien dedans. Il y a d'une part une liste d'armes qui est particulièrement drôle. On va trouver les dégâts infligés par un fer à repasser chaud, un fer à repasser froid, une fourchette à huîtres, un gant de boxe, un grip, pain, une machine à coudre, une ponceuse orbitale.
Tout de suite, ça donne des idées aux joueurs, ça.
Oui, voilà, c'est rien que la liste donne envie de faire un remake de l'arme fatale. Par exemple, il y a une autre aide de jeu qui est complètement débile, mais que j'adore, c'est le contenu des, enfin le message des répondeurs téléphoniques des principaux archanges et princes démons. Par exemple.
Si j'appelle Cobal, tiens.
Alors, si tu appelles Cobal, qu'est-ce qu'il va dire ? Il répond « Allô, oui ?» parce qu'il n'a rien à faire, donc il répond directement au téléphone.
Ou alors, c'est peut-être son répondeur d'ailleurs. « Allô, oui ?» Tu commences à parler comme un con et puis...
Voilà, le répondeur de Bélial, c'est « Vous êtes... » Donc, qui est le prince des démons du feu.
Oui.
« Vous êtes bien aux urgences des pompiers, veuillez laisser un message. » Ou alors, par exemple, le prince démon du jugement, Andromalius, qui est donc celui qui est le bœuf carotte.
Donc il prend les dénonciations anonymes, non ?
Oui, voilà. Son message est « Veuillez laisser un message, vous avez néanmoins le droit de garder le silence, tout ce que vous direz sera enregistré et pourra être retenu contre vous. »
Ce supplément contient également un truc super intéressant et vachement pratique. C'est un ensemble d'aides de jeu qui décrivent un lieu avec ses PNJ, ses intrigues internes, toutes les créatures sur naturel qu'il peut y avoir dedans et qui permettent de faire un petit scénario comme ça sur le pouce. Voilà, c'est super pratique. Il y a également l'excellente campagne Baron Samedi qui va permettre aux personnages de rencontrer un futur archange ou prince démon selon les actes et le camp des joueurs. Donc plutôt sympa avec la découverte du vaudou.
Ça apporte quelque chose à l'opposition de base entre ange et démon, le vaudou, ou c'est un gadget ou...
C'est marrant parce que ça a des effets différents, les sorts et les trucs. En général, c'est très peu puissant par rapport aux compétences de base d'un démon ou d'un ange. Ça reste que des humains en fait qui font de la magie, quoi. Donc il y a le fameux Il était une fois où les personnages sont projetés dans différentes époques historiques.
Ils peuvent rejouer des scènes célèbres ?
Oui, voilà, oui. Ils vont décrocher Jésus ou quelque chose comme ça.
D'accord.
Ou le fameux supplément Intervention divine, qui est le premier supplément de la première édition. Pas très facile à trouver pour les collectionneurs.
Et pour terminer, je ne pouvais pas ne pas mentionner la gamme alternative d'INS se déroulant dans un futur très lointain, qui s'appelle donc Stella Inquisitorus, où les anges se déplacent dans l'espace à bord de vaisseaux spatiaux cathédrales type Warhammer 40 000. Donc cette mini-gamme, puisqu'elle n'a compté que deux ou trois suppléments, je crois, est pas hyper génial, mais étant donné son contexte un peu vraiment barré, je pense que ça vaut le coup quand même de au moins d'y jeter un œil.
Ça a été édité chez quelle boîte ? Ça a été plusieurs boîtes successivement.
Quoi, la gamme ?
Bah, INS d'abord, c'était chez Syros.
En fait, c'était chez Syros Idéo-Jeux. Après, c'est devenu quoi ? Après, c'est devenu Asmodée assez rapidement. Syros étant une la marque de tous les jeux de rôle d'Asmodée.
Oui, d'accord.
Donc voilà, c'est un petit peu tout. Je vais, de toute façon, je vais pas donner la liste de tous les scénarios, ça ne sert à rien. Pour tous les voir, une chose importante. Il y a un excellent site internet qui s'appelle 20e Ciel, qui en fait contient les PDF de tous les bouquins d'INS de la première édition jusqu'au tout dernier supplément paru.
Waouh ! Et donc l'éditeur a soutenu cette démarche ?
Soutenu, non, mais autorisé, autorisé tacitement.
Sachant que c'est plus édité actuellement, c'est ça ?
Non, c'est là. En fait, ont.
C'est dans ce contexte-là qu'ils ont décidé de. Voilà,
Asmodée ou même Croc directement a décidé d'arrêter en fait la gamme alors qu'elle était en plein. Qu'elle était à son top, quoi.
D'accord.
Histoire que ça se termine bien, si tu veux.
Oui.
Donc ils ont sorti un supplément ironiquement appelé On ferme.
D'accord. Puis peut-être au bout de, enfin, au bout de 20 ans au et 47 ans. Suppléments, ils ont dit beaucoup, beaucoup de choses.
Ouais.
C'est difficile de trouver quand même, de se renouveler après tant de...
C'est vrai
de
qu'après, c'est un... C'est pas évident, mais...
Enfin, puis je me mets à leur place, peut-être ça fournit un cadre de plus en plus, qui devient de plus en plus un carcan, parce qu'il faut respecter un historique, etc.
Oui, c'est vrai, oui.
Alors que s'ils ont encore de l'envie pour faire du jeu de rôle, ils peuvent partir de zéro, et là, ils ont une liberté totale.
Ouais, oui, tout à fait, oui. Mais ces remarques, ça fait aussi partie du plaisir de reprendre les codes d'un jeu.
Oui, bien sûr.
Par exemple, comme ce qu'il se fait, par exemple, dans les comics, c'est où ils font des reboots de séries pour les, justement les enlever le carcan et
reprendre le principe de base.
Ouais.
L'humour, l'actualité, les anges et les démons, et puis peut-être... refaire le casting.
Ouais. Mais il me semble qu'il existe une version comme ça. Alors je sais plus si c'est celle de Loris, enfin de Greux, tu connais.
Oui, je crois que je l'ai croisé en tout cas.
Et alors lui, il a fait une version apéro, et il me semble qu'il partait du principe que le background revenait à son principe de base en fait, lutte entre les anges et les démons et en enlevant les vaudous, les vikings, les psys,
oui,
les égyptiens,
oui.
Les le plan des rêves,
les gitans, Cthulhu.
Il y a pas de gitans, je crois pas. J'en suis pas sûr.
Il manque un supplément alors.
Non, c'est vrai que c'est une gamme qui s'est beaucoup construite en strat, où le background a été augmenté au fur et à mesure. Par exemple, la création des marches. Prenez pour exemple le fait que l'univers est une sorte d'énorme ascenseur. Au dernier sous-sol, c'est l'enfer. Au zéro, c'est le purgatoire. Voilà. Et la Terre est quelque part aussi dans les environs. Enfin, le monde des hommes, tout ça. Et au sommet du building, c'est Dieu et le paradis. Et en fait, les marches sont les étages intermédiaires de l'ascenseur, où normalement, il n'y a rien. Mais où...
Les marches intermédiaires de l'escalier.
Voilà, c'est ça. Ils sont des marches... en fait, c'est représenté en escalier. Et c'est des marches d'escalier. Et donc, l'une d'entre elles contient les rêves. Donc, l'espèce d'inconscient collectif, tout ça. Et il y a un sorcier qui s'est emparé d'une marche dans laquelle il a créé son propre monde. Bref.
D'accord, oui, voilà, il y a une vraie cosmogonie.
Oui, c'est devenu assez complexe. Enfin, c'est complet plutôt que complexe, parce que finalement, étant donné que c'est venu au fur et à mesure des suppléments, tu acquiers les connaissances au fur et à mesure.
Toi, tu l'as dit, tu as joué énormément à ce jeu. Si tu avais un meilleur souvenir à nous raconter, peut-être. Ou un truc que vous racontez de temps en temps. Ah, tu te souviens quand vous avez violé Bélial ou je sais pas quoi.
Non, je peux pas, c'est du porno avec une peluche. Enfin, voilà. Non, je peux pas le dire. Mais j'ai beaucoup de bons souvenirs, ouais. Je tenais à déclamer ainsi un petit peu mon coup de cœur pour ce jeu que j'ai toujours aimé et que j'aimerais toujours, et voilà. Et je pense que de toute façon, là, il y a suffisamment de quoi jouer pour toute une vie de rôliste.
Oui. Et puis le jeu reste populaire, donc il y a encore des gens qui y jouent.
Oui, il y a encore des gens qui y jouent.
Il y a une communauté peut-être qui produit des petits scénarios ou des...
Oui, on peut trouver des scénarios, mais il y en a sur la scénariothèque. Je crois même qu'il doit y en avoir un très vieux à moi, que j'ai écrit il y a super longtemps. Il doit y en avoir aussi sur le Sden, je crois. Et donc, il y a sur le site du 20e ciel tous les suppléments. Et ça, quand même...
D'accord.
C'est...
Ça, c'est pas mal pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil, pour se faire une idée. Et puis, si c'est leur play, ils pourront toujours se les procurer sur le marché de l'occasion.
Ouais, voilà. Cela dit, il y en a qui commencent à être difficiles à trouver. Donc, je lance un appel. Alors, je cherche le tout premier supplément de la première édition, celui qui contenait les fiches cartonnées des princes démons supplémentaires, des archanges. Là, ça, ce serait pas mal.
Voilà, auditeur, vous savez quoi faire maintenant.
Non, mais c'est vrai, quoi. On a un podcast, autant qu'on en profite pour passer des messages perso, tu vois. Donc, voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de la bête. Et pour compléter cette présentation, Cyril, je te propose une petite interview que j'ai réalisée de Thomas B., l'un des anciens membres de InStudio de la grande époque. et avec lequel nous revenons un petit peu sur cette grande aventure In Nomine Satanis. Et donc, eh bien, je lui laisse la parole tout de suite.
Donc bonjour Thomas, tu es l'un des anciens membres du studio In Studio.
Bonjour Cobal.
Est-ce que tu peux parler un peu donc de la création de In Studio, parce que à ma connaissance c'est la première fois où ça se faisait en externe.
Ouais, c'est un peu ça. Bon, en fait ça s'est fait. Alors moi j'ai pas toute l'histoire occulte, mais non, parce qu'il y a quand même des trucs assez. C'est underground, dans ce truc-là. Non, en fait, l'idée au départ, c'est qu'on est In Studio, c'est un conglomérat de fanboys de merde, quoi. Mm-hmm. C'est que c'est vraiment, on était des gros fans du Nomine Satanis Magna Veritas, et chacun de notre côté, on y jouait beaucoup. Typiquement, moi, je vois le gros shift qui a été fait quand j'étais joueur, et après, on était allé à une convention unique et mythique qui s'appelait le Weekend Ciro Bellir, organisé à la Fac Dauphine par Ciro's, donc Cassius Belli et Ludo Delir.
Ouais.
Et on avait passé le week-end à faire plein de jeux débiles. Il y avait de la pêche à la ligne, tu pouvais récupérer tout un tas de points en parlant avec des auteurs, faire des démos, bref. Et à la fin de la con, en fait, on a gagné une vente aux enchères qui s'est faite à la hauteur de la pile de billets. T'avais des faux billets.
Ouais.
Et on a gagné en fait une collection complète d'Innominé Stanis Magna Veritas.
Ah, cool!
Donc, comme on était des fanboys de merde et que Croc était là, bah, on lui a fait dédicacer la pile. Et puis, donc il nous a un peu maudit. Et puis après, on l'a fait jouer, forcément.
Ouais.
Et puis, à force, une fois que t'as fait jouer et que t'es un gros fan et que tu dis que tu veux amener ta pierre à l'édifice.
Ouais.
Et en fait, ça s'est su dans le petit milieu fanzina. Donc moi à l'époque c'était Baxus Kelly, il y avait Matrev qui était plus dans
Apsara, tout ça, ouais.
Donc avec Riva.
Mm-hmm.
Et il y avait CFC et Mathieu Ballet qui eux étaient relais jeunesse. Et donc en fait Riva, donc qui est un peu notre mafieux polonais, mécène, puppet master, tout ce que tu veux, c'est lui en fait, qui a connecté tout ça. Et comme je crois qu'il faisait du business avec Ciro's, il devait faire de l'impression en Pologne, un truc comme ça.
Ouais.
Il leur a dit voilà, il y a plein de gens motivés, ils sont bons, ils sont créatifs, on va faire un truc quoi. Et puis le truc ça a été Habeas Corpus en fait. On a présenté un pitch.
Ouais.
On a écrit les trucs. Et puis Croc voulait juste un droit de regard histoire qu'on fasse pas n'importe quoi avec son jeu.
Ouais.
Nous de toute façon on était tellement des fanboys de merde qu'on n'allait pas se permettre de tout casser. Uh-huh. Et le deal c'était voilà, je vous laisse faire vivre la gamme mais vous me la cassez pas et vous la rendez un peu dans l'état où vous l'avez trouvé quoi.
D'accord. Donc,
tu remarqueras que tous les la plupart du contenu est vraiment fait pour se suffire à lui-même et s'arrêter. Enfin une fois que t'as fini la campagne ou le scénar, voilà, tu laisses plus ou moins le background
l'état, oui. Voilà.
Donc c'était le deal. Et puis ça a permis à Ciro's de leur côté de concentrer sur ce qu'ils faisaient. Uh-huh. Et puis de faire avancer la gamme, pendant que nous on s'amusait comme des petits fous à vivre le rêve de prolonger des trucs. Bon, typiquement les mettre à penser, c'était un peu Jehoran quoi. Et puis en même temps ramener notre sauce. Donc voilà, moi typiquement je me suis lâché sur les Rasta, il y a du hip hop, enfin, en fait on a clairement respecté, on va dire, le style Gérard dans l'optique.
Ouais.
Et pour simplifier outrageusement, oui, ça a été des scénarios de gauche. Mais, on était clairement plus au sens large hip-hop que rock'n'roll, quoi. Voilà.
Oui, tout à fait. Oui. Oui, ça se sent dans l'écriture, dans la façon d'aborder les choses. Oui, le côté politique, finalement, il est bien plus présent dans votre version d'INS à vous que la précédente, je trouve.
Bah, surtout que la précédente, c'était un peu... Enfin, la précédente directe, c'était l'équipe Timbre Poste, Léo Vesperini, 7.7, tout ça.
Mm-hmm.
Et ils avaient une grosse optique déconne.
Ouais.
Alors c'était pas du tout politiquement correct non plus, hein, faut pas déconner, hein, ils faisaient des trucs assez hardcore, mais c'était effectivement c'était pas très politisé. Bon, en plus ils ont tous des opinions politiques un peu diamétralement opposées, il y a quand même des extrêmes assez barrés là-dedans, mais
tu vas tout de suite nous donner la liste.
Non, je crois que ça c'est pareil, ça a créé assez de tension comme ça à l'époque. mais donc nous d'un point de vue bord, on avait notre social traître on va dire centre droit, et puis bon c'est vrai que tout le reste c'était un peu plus marqué de l'autre côté.
Oui.
Après on n'a pas non plus, on n'était pas là pour faire de la science-fiction un message quoi.
Oui,
c'est
oui,
juste qu'on
oui,
n'est oui. pas se cacher que c'est un jeu qui est intrinsèquement politique.
Oui.
Et que donc, bah ouais, nous on s'est pas caché du tout quoi. Après, ça couvrait des thèmes bah, type l'islam, des sujets.
Je me souviens d'une page dans la Troisième Force qui était particulièrement gratinée.
Ouais, bah ça doit être CFC qui a dû
Oui,
se cacher, quoi.
tout à
Et les
fait.
philosophes, hein, quand même, hein, donc voilà.
Et écrivain maintenant.
Écrivain et surtout romancier et talentueux, je conseille à tout le monde, notamment Yamaloka Terminus avec Léo Henry. Dans la série Connexion Fanzines, Léo Henry, donc à l'époque, dont j'étais fan parce qu'il avait fait le fanzine Furious Gnomies et qu'il écrivait très très bien, dès que j'ai eu le moyen de le ramoter sur le projet, je l'ai fait. Puis bah, finalement, ça a donné à la fin, quand j'ai un peu lâché les manettes et que donc, CFC et Léo ont monté le truc, ça a donné leur mythique campagne Fire and Ice. Et maintenant, ça donne des recueils de nouvelles de fous et même des spectacles. Et ces deux mecs écrivent comme des dieux, quoi. Donc voilà, non seulement il y avait, à départ, il y avait une amitié, mais c'est juste qu'en termes de talent, je pense qu'ils ont prouvé aussi au non-release que c'est des mecs qui écrivent super bien, quoi. Moi, personnellement, c'était un des trucs qui pour moi, était important là, quand je fais, entre guillemets, directeur éditorial sur certains suppléments, c'était d'avoir vraiment le mélange de... on est tellement fan, on veut respecter le background, on veut amener des trucs fun à jouer, et en même temps, c'est un bouquin, donc il faut qu'il soit agréable à lire. C'est-à-dire que le MJ, autant qu'il va se taper la lecture, autant que la lecture en elle-même soit cool. Donc, on a essayé globalement d'avoir un style qui était à peu près plaisant à la lecture. Non, mais voilà, j'ai toujours eu des retours assez positifs. Les gens étaient contents, ils me ressortaient des. Tu sais, quand des gars qui te ressortent des scènes que tu as écrites avec les étoiles dans les yeux, c'est bonheur, quoi.
Ah oui, ouais, c'est tout, ça fait vraiment plaisir.
Comme quoi aussi, on peut écrire des bons scénarios sans les tester, hein, la preuve. Ça ferait partie des trucs importants à dire. Non, non, mais il y en a plein qui ont été testés, tu vois.
Si tu veux, je rajoute ça en easter egg tout à la fin après le générique.
Alors voilà, je tiens à dire que c'est pas vrai que les scénarios studio n'étaient pas testés. Je peux confirmer que les miens n'ont pas été testés par moi, ça c'est sûr. Ils ont été testés par d'autres gens.
Les joueurs.
Voilà, ce qui est d'ailleurs un meilleur test. Mais non, non, les grosses campagnes ont été testées par les miens.
Fire and Ice, quand même, quel monstre.
Ouais, mais celui-là a été clairement joué. Mais tu vois, New World Order, moi, mes parties en tout cas, je crois que Riva l'a fait jouer globalement, c'est-à-dire en faisant jouer mes scénars et ses scénars. Mais j'ai des retours super positifs de tout un tas de scénarios qui n'ont pas été testés, quoi. Donc moi je pense qu'une fois que tu as un peu de bouteille, tu sais écrire un truc qui est à peu près jouable, à peu près ouvert et qui en même temps a une trame qui tient la route. Donc c'est pas je suis pas je je vois tellement de merde sans nom qu'on a testé en 25 ans voilà pourri, tu fais ouais bah super, ça a marché pour ton groupe de joueurs.
Est-ce qu'il y a plein de magie dans ce jeu?
Par exemple, mais c'est pas le seul, hein.
Oh non.
Voilà, ouais, il y en a plusieurs. Et ça c'est faire petit truc qui m'énerve. C'est pas parce que t'as testé ton truc qu'il est bien. Donc là, vraiment. C'est pas parce que ça a plu à 5 personnes que ça va être utilisable par 2000, quoi.
Mais ça s'est beaucoup amélioré de ce point de vue. Enfin, on voit beaucoup de bouse.
Ouais, il y a moins de bouse. Peut-être parce que les gens ils sont passés à autre chose. C'est ça. On a eu une belle série, ouais, de trucs quand même. Pour moi, le seul et unique vrai test, c'est voilà, c'est tu finis un produit, tu le donnes à quelqu'un d'autre qui te connaît pas, qui t'a jamais vu, il le joue et si ça tourne, ouais, là c'est que ton truc il a été écrit clairement, quoi. Mais jouer avec tes potes tous les vendredis, ça c'est pas du test. Ça,
depuis 25 ans.
Voilà, ça c'est du pipeau, ça. C'est ce que je conseille à tous les MJ, tous les gens qui veulent écrire. Écrivez votre truc et donnez-le à quelqu'un d'autre. S'il n'arrive pas à l'organiser tout seul, c'est qu'il y a un problème, quoi.
Ok, très bien. Bah, ma foi, merci. Est-ce que j'ai d'autres trucs à te demander? Tes suppléments préférés?
Ah, Dinomine Stanis.
Ouais.
Ouais. C'est dur, hein. Ce sera un truc de la période Gérane, mais je sais pas. On va dire l'extrême total, c'est Rigor Mortis. Dans le sens où voilà, c'est là où c'est vraiment parti dans le délire, c'est plus le bien contre le mal, c'est les progressistes contre les conservateurs des deux camps.
Ouais.
Et puis il y avait le bureau, il y avait tous ces
la maison où, le truc,
voilà, ouais. La maison, voilà, c'est un peu, je pense, le supplément de trop, c'était plus celui avec les Avec les Celtes, là, c'était quoi? C'était Deus Ex Machina?
Ouais, tout à fait. Mais, voilà, c'est, là, mais c'était une bonne campagne, cela dit.
C'était pas mauvais, quoi. Mais, ouais.
C'était trop.
Donc voilà, déjà, puis même moi, de toute façon, la troisième force, ça m'a toujours gavé, tu vois. Quand j'ai fait les Rasta pour Magna Veritas, c'était pas une troisième force, quoi. Ouais. C'était des anges de Novalis, ils étaient un peu funky, mais c'était clairement des anges de Novalis normaux, quoi.
D'accord.
Donc, t'avais un scénar, ça devait être. Et pour 2 litres de cervelle dans un hors-série Casus Belli scénario. Ouais. Après, tu avais la pendule de Jean-Pierre Foucault
dans Even and Hell.
Et après, t'enchaînais avec La concierge dans l'escalier de Rigor Mortis.
Ouais.
Et donc, bah voilà, c'était si tu jouais des démons, c'était Passage au paradis.
C'est pas pour 2 livres de cervelle, c'est plutôt promotion canopie, non?
Alors tu pouvais aussi faire promotion canopie, ouais. Mais il y avait 2 livres de cervelle, en fait, te donnait l'intro au concept des bibliothèques des Yves qui passaient.
D'accord,
dans
le
truc. C'était un peu le teaser ou le pré-générique, quoi.
Mm-hmm.
Mais promotion canopie, tu pouvais l'enchaîner aussi. Voilà, donc tu avais le moyen de combiner 3-4 scénarios comme ça, mm-hmm. avec des trucs de fou, des invasions du paradis, des passages en. Voilà, quoi. C'était les marches intermédiaires, la grande époque des marches intermédiaires et tout ça, quoi.
Ah oui, ouais. Une marche avec des dizaines de marches, avec plein de panthéons dans tous les sens et des machins. Et des...
Voilà, mais qui était un conduit vraiment pour arriver à la fin au paradis ou à l'enfer. Donc ça donnait des trucs extrêmes. Ça, c'est pour les trucs publiés. Et après, moi, ça, connecté à ça, parce qu'il y a quand même des intrigues qui se recoupent, une des grosses claques, ça a été du mort, en fait, la soirée enquête
SPSR. Ah oui.
C'est plutôt comme. En fait, c'est grâce à ça que je suis rentré en GN, quoi.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y avait le côté délire, on va jouer les gros PNJ qui sont les supérieurs, et puis bah voilà, ça s'avérait que c'était super fun de faire ça en live, quoi.
Mais il me semble que c'est tiré d'un bouquin, ça.
En fait, c'est une combinaison. L'intrigue principale ressemble beaucoup à celle de Rigor Mortis. Donc quand t'as déjà joué justement ces campagnes-là, quand tu connais le background, si t'es un vrai fan d'Innominé Stannis, il y a très peu de surprises dans cette murder. Par contre, ce qui est cool, c'est que pour une fois, c'est toi tu joues directement les grands chefs qui sont seulement dans le décor et qui sont seulement les instruments du MJ. Là, c'est toi le big boss. Oui. Quoi.
Et surtout, il reste des surprises quand même, même pour ceux qui connaissent le background.
Ouais, et puis comme toutes les parties de jeu de rôle au sens large, les grandeurs nature en particulier. Le MJ en GN, il peut rien faire, ou presque, ça dépend du joueur. Donc là, les initiatives des joueurs, le roleplay, les négociations, les magouilles, tout se fait en parallèle. Et puis selon la personnalité du joueur, tu auras à chaque fois une sortie différente du jeu, quoi, une issue différente. Donc c'est un truc qui est vraiment très très fun à jouer, que je conseille à tous ceux qui l'ont raté parce qu'ils n'étaient pas forcément actifs en boutique à l'époque, quoi. Donc c'est gratuit, c'est online, c'est trouvable, quoi.
Bon. D'accord. Ma foi, merci d'avoir répondu à ma demande à brûle pour point.
Il n'y a pas de problème. Merci de continuer à porter le flambeau de Guns. C'est important.
Au revoir, voilà. Thomas.
Au revoir, Cobal.
Salut.
Ciao.
Et voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette fois-ci. Cyril, je te dis à la prochaine fois. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Allez, salut!
À la prochaine fois, ciao! Allez, c'était quoi?
J'ai pas envie de le dire.
Allez, dis-le!
Bon, d'accord. Alors en fait, mon perso était donc un démon de Cobal et j'avais comme familier un lapin rose qui s'appelle Totoche et qui avait une très grosse bite. et donc il faisait des concours et... c'est vraiment trop crade, je peux pas.
Dis-le !
il avait un poster de femme nue et il essayait de viser la tête, voilà, c'est tout.
Et alors, juste pour la postérité, tu avais quel âge à l'époque où tu as conçu ce personnage secondaire?
Je sais pas, 28 ans. J'ai honte.
On s'en fout, ils écouteront pas jusque-là.